de deux pierres. Donc, cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront ainsi comme des bêtes et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair de leur débauche ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Jusqu'ici, la parole de Dieu et je laisse la place à Trevor.
Alors, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, donc à la page 803. Et avant de commencer, je vais prier. Merci à notre bon Père Céleste pour ta parole, cette parole qui est une lampe à nos pieds. Nous avons besoin de sa lumière ce matin. Éclaire nos vies, nos cœurs, nos désirs. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander dans ta grâce, pour ta gloire, conduis-nous à Jésus. Fortifie notre foi en lui. Donne-nous de vivre pour lui. Nous te demandons ces choses en son nom. Amen. Alors ce matin, on arrive au cœur du message de la deuxième lettre de Pierre. Et force est de constater que ses propos, ses mots sont très très forts. sans doute pour certains un peu fort de café. En tout cas, il n'y va pas par quatre chemins. Ses paroles sont directes, très imagées, très fortes. Peut-être pour certains, ses paroles sont un peu hystériques, un peu paranoïaques. Bien, nous le savons, il est proche de la fin, il sait qu'il va bientôt mourir. Mais loin de lui pousser dans un délire, sa mort imminente lui donne une lucidité. Il voit clairement le danger qui arrive. En tant que jeune papa, j'ai souvent peur pour William, qui n'a que 2 ans. Lui est souvent sans peur, mais moi j'ai tendance à voir le danger partout. J'essaie de lui expliquer dans les mots qu'il comprend le danger qui existe. Par exemple, je lui explique que les voitures qui passent font peur. Elles sont effrayantes. J'ai peur qu'il n'y fasse pas assez attention. Maintenant, il me dit « Mais papa, non, elles sont sympathiques ». L'apôtre Pierre utilise les termes forts, non pas pour exagérer le danger, mais pour l'exposer comme réel, destructeur, pernicieux, présent et imminent. Alors, c'est un passage plein de détails. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de commenter chaque détail du passage. N'hésitez pas à venir me voir après si vous avez une question qui reste en suspens et que je n'ai pas pu aborder. En tout cas, on va voir dans les 3 premiers versets, 3 premiers versets de ce passage, la réalité. Il y aura de faux enseignants dans l'Église. Ça, c'est la réalité, 3 premiers versets. Ensuite, dans un deuxième temps, versets 4 à 10, la première partie du verset 10, on va voir la réalité ultime. Dieu aura le dernier mot. Dieu aura le dernier mot. Et troisièmement, on va voir dans les versets, donc la deuxième moitié du verset 10 jusqu'à la fin, on va voir la réalité destructrice. Et on va voir que c'est Genèse 3, encore une fois. Donc la réalité ultime et la réalité destructrice. D'abord, la réalité actuelle. Il y aura de faux enseignants dans l'Église. Alors, dans le passage précédent, Pierre nous a sommé d'écouter la parole de Dieu, à savoir la parole des apôtres, le Nouveau Testament, et aussi la parole de l'Ancien Testament, celle des prophètes. Et c'est ce que Pierre lui-même a fait. Il a écouté l'Ancien Testament. Et comme il y a eu de faux prophètes au sein du peuple d'Israël, comme on voit dans l'Ancien Testament, il sait qu'il y aura de faux enseignants, de faux prophètes, mais il utilise le mot « faux enseignants » dans l'Église de Jésus-Christ. Ce peuple renouvelé, ce peuple fait de juifs et de non-juifs, tous ceux qui ont mis la confiance en Jésus, le Messie que Dieu a donné à Israël. Pierre fait une analogie. Nous sommes le peuple de Dieu à notre époque de l'histoire du salut. Et ce qui est arrivé au peuple de Dieu à cette autre époque de l'histoire du salut se répétera. C'est comme ça. Ce qui leur est arrivé pour que ça nous serve d'exemple et aussi d'avertissement. Pierre leur explique que ça aura lieu. Et au fur et à mesure que nous lisons ce passage, nous voyons que c'est déjà le cas. Il y aura de faux enseignants. Il y a de faux enseignants. Pierre les avertit. Il y a un danger clair et présent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce danger est tout aussi clair et présent pour nous, 20 siècles plus tard, même parmi les évangéliques, même dans l'association baptiste, même l'église de la Garenne-Colombes. Cette parole nous est adressée, à nous ce matin, par le Saint-Esprit qui a inspiré ce passage. Il l'a fait parce qu'il se soucie de nous. Il nous a à cœur, il nous aime autant que les premiers lecteurs de ce passage, qui eux avaient l'apôtre Pierre. Il nous explique que ces faux enseignants ne viennent pas de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur. Voici, ils sont, verset 1, ils sont parmi les croyants. C'est clair qu'à l'extérieur de l'Église, il y a toutes sortes de faux évangiles, il y a toutes sortes de fausses idées, de mensonges. Notre société est gouvernée à la fois par l'humanisme athée, et l'hédonisme primaire, la poursuite du plaisir. Faute de Dieu, autant se faire plaisir. Faute de Dieu, autant glorifier l'homme, vivre pour lui. Ça, c'est à l'extérieur de l'Église. Mais le danger clair et présent vient d'enseignants à l'intérieur de l'Église. De personnes qui se disent chrétiennes, qui semblent, en tout cas à un moment donné, qui semblent avoir goûté à la grâce. Ces personnes peuvent parler d'une conversion, d'une expérience avec le Seigneur. C'est ça ce qui les rend difficilement perceptibles. Ils connaissent le patois des chrétiens. Ils connaissent la foi de l'intérieur. On n'est pas à la recherche de monstres, d'ogres qui ont des cornes. Il s'agit de personnes qui ont peut-être bien commencé dans la foi chrétienne, qui avaient à un moment donné une profession de foi tout à fait orthodoxe, qui avaient peut-être une bonne réputation, qui ont fait de bonnes choses, peut-être au GBU, peut-être parmi les jeunes, à l'école du dimanche, peut-être à la fac de théologie, en église. Mais comme Pierre nous dit au verset 1, ces personnes ont commencé à enseigner consciemment d'autres doctrines, de nouvelles doctrines. Ils introduisent d'une manière secrète, en catimini, ces nuances, ces enseignements, ces pensées, ces idées qui en réalité vident l'évangile, la foi chrétienne, de sa substance, de sa puissance. On ne parle pas ici de différence de point de vue typique entre chrétiens où on peut nous mettre d'accord pour ne pas être d'accord, pour avoir des avis divergents. Non, on parle ici d'idées, de doctrines qui, comme Pierre le dit, mènent à la perdition. Ces doctrines ne sont plus la foi chrétienne. Elles s'y opposent même. Elles s'opposent en réalité à la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul veut dire au verset 1 quand il dit « Allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés ». Et on s'oppose à ce maître, on s'oppose à la seigneurie de Jésus-Christ en s'opposant à sa parole, à ce qu'elle dit de manière claire. À ce qu'elle enseigne. Il s'agit d'enseignements qui minent la vérité de la parole, qui remplacent ici ou là ce que la parole dit. Des enseignements qui tentent de moderniser la parole, qui lui accordent une certaine place, mais pas cette crainte qui lui est due parce qu'elle est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, parce qu'elle est inspirée de son esprit. Et c'est pour ça que dans la section précédente, Pierre a martelé notre besoin de nous rappeler sans cesse l'enseignement de la parole inspirée de Dieu. Il a parlé de l'oubli. C'est un combat quotidien, un combat contre l'oubli, contre notre tendance orgueilleuse à remplacer la parole de Dieu avec une autre parole, une parole d'homme, notre parole, une parole qui nous flatte. Une parole qui nous excuse, une parole qui nous libère pour faire ce qu'on veut. Alors Pierre n'y va pas par quatre chemins. Ses propos sont forts et même, on va voir vers la fin du passage, très très forts. À notre époque où on a peur de ne pas être consensuel, où on a peur d'être taxé d'hypocrite, taxé d'avoir un esprit de jugement, je pense souvent on a peur d'être aussi clair que l'apôtre Pierre. Mais on voit que Pierre a en horreur cette approche bisounours, parce que cette approche manque d'amour. Pierre, l'apôtre Pierre, est animé d'un amour robuste pour ses frères et sœurs, et c'est pour ça qu'il les avertit. Il est conscient que beaucoup suivront ces faux enseignants. Le verset 2 nous dit que beaucoup les suivront dans leur immoralité. Il n'y a que l'évangile, le vrai, cet évangile qui nous donne des promesses. C'est cet évangile qui nous transforme, qui nous aide à lutter contre l'immoralité. C'est ce qu'on a vu au chapitre 1. Si on est rempli de gratitude envers Dieu, il nous a purifiés. Si on est rempli d'espérance, il va nous ramener à la maison. Jésus revient nous chercher. Nous ferons des efforts pour plaire à ce Seigneur-là. Mais quand l'évangile est déformé, altéré, amoindri, dilué, tôt ou tard, cette transformation se fera dans le sens inverse. Et souvent, cette transformation-là va très rapidement. C'est dur de lutter contre le péché. de faire des efforts, comme on a vu au chapitre 1. Et c'est pour ça que c'est tellement dur de résister à un enseignement, un faux enseignement, qui dit qu'on n'a pas à faire des efforts, que Dieu ne nous demande pas de fuir le péché, qu'au contraire, Dieu veut simplement notre bonheur, notre épanouissement, la réussite de nos projets dans la vie. Et quand on ne résiste pas, l'immoralité s'ensuit, et rapidement. Et Pierre sait que cette immoralité conduit à la ruine. On l'a vu au chapitre 1. Pierre sait que si quelqu'un se donne sans s'en repentir à cette immoralité, il quitte la foi, il est perdu. Pierre aime l'évangile aussi, il ne veut pas qu'il soit calomnié. Et c'est vrai que quand il y a des scandales dans l'église, ça se sait. Les médias s'en saisissent, la pédophilie ou d'autres abus qui ne sont pas dénoncés. Ou les pasteurs qui s'en mettent plein les poches. Les enseignants itinérants qui ont des jets, des avions privés. Ou qui ont beaucoup d'argent ou qui font beaucoup d'argent sur comme ça. Un responsable qui quitte sa femme pour une autre. Des croyants manipulés ou contrôlés. Cette immoralité ou ce train de vie luxueux scandalise les non-croyants. Oh, si votre foi est comme ça, j'en veux pas. Non, merci. Ces faux enseignants font tout ça par soif de posséder. C'est ce que nous voyons dans le passage. Soif de l'argent avant tout. Et peut-être aussi soif de succès, soif d'approbation, soif de reconnaissance, soif de contrôle, soif de pouvoir. C'est très humain. Leurs moyens, leurs paroles trompeuses. La parole, la langue. La langue est puissante. Elle peut faire énormément de bien. Comme elle peut faire énormément de mal. Genèse chapitre 1, Dieu dit, et la chose fut. Dieu fait du bien par sa parole. Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Une parole mensongère, une parole qui s'attaque à la bonne parole de Dieu. Une parole qui mène à la ruine. Et Pierre est clair. Comme Dieu a été clair au début de la création, leur jugement ne tardera pas. Il arrivera tôt ou tard. Rien n'est plus certain. Rien n'est plus certain parce que la Bible elle-même le dit de manière on ne peut plus claire. Et Pierre ne veut pas qu'on soit naïf ou dupe. Pierre, nous l'avons vu la fois dernière, était sur la montagne lors de la transfiguration. Il a entendu. Il a entendu comment le Père a dit que Jésus est le Fils, son Fils bien-aimé, celui qui a toute autorité. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Pierre a vu Moïse et Élie qui pointaient vers Jésus, le roi, le juge du royaume. Et dans ce chapitre, il nous montre comment tout l'Ancien Testament atteste le jugement à venir. Oui, il y a la réalité de faux enseignants dans l'Église. Et voici la réalité ultime. Dieu a toujours le dernier mot. Dans cette section, donc les versets 4 à 10, Pierre nous donne trois exemples tirés en ordre chronologique de l'Ancien Testament qui confirment la conclusion qu'il donne au verset 9. Voici la conclusion au verset 9. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour de jugement où ils seront punis. Et les exemples de l'Ancien Testament prévoient ce que Dieu va faire quand Jésus revient pour juger les vivants et les morts. D'abord, Pierre semble évoquer un passage difficile dans Genèse chapitre 6 où les anges ont péché. Dans sa première lettre, on voit quelque chose de semblable au chapitre 3 et dans la tradition juive, on parle pas mal de ce passage. Le maître mot au verset 4, c'est le mot « garder ». Ces anges sont gardés en vue du jugement. Alors ce jugement est toujours futur, mais Dieu maîtrise ce jour-là. Ce jour aura bien lieu. Ils sont gardés en vue de ce jour-là. Ensuite, deuxième exemple, Pierre évoque Noé et le déluge. Genèse 6 à 8. Oui, à cette époque-là, les gens se sont moqués de Noé. Ils ont continué à vivre n'importe comment, même quand Noé a prêché la justice, et on sait que le jugement de Dieu n'a pas tardé. Dieu a eu le dernier mot. Il a sauvé ces hommes pieux, ces 8 personnes, petit nombre. Il a jugé les impies. Finalement, Pierre évoque Sodome et Gomorre, et aussi Lot. Genèse chapitre 19. Lot qui a été tourmenté par le mal qu'il voyait autour de lui. Dieu a délivré Lot tout en jugeant Sodome et Gomorre. Et donc, Pierre, par ses exemples, nous dit « Ne soyez pas induits en erreur. Écoutez la parole de Dieu. Dieu aura le dernier mot. » Oui, de faux enseignants semblent avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils vivent comme il leur semble bon. Ils ne résistent pas à leurs désirs. Ils justifient leurs désirs. Ils semblent pouvoir les assumer, les vivre pleinement, en tirer leur épingle du jeu, donner une certaine théologie à tout ça. Ils ont peut-être des ministères qui ont des moyens, des livres publiés, des sites internet, des conférences, des personnes qui les suivent. Ils semblent être crédibles. Certains vont même y voir la bénédiction de Dieu grâce à ce succès. Mais ce qu'ils font n'a rien à voir avec la fidélité à Christ. Ils ne ressemblent pas à ceux qui se donnent du mal pour fuir la corruption, pour pratiquer la maîtrise de soi, pour poursuivre la sainteté, pour aimer de manière sacrificielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que leur calcul est vraiment un mauvais calcul. Ça a l'air payant sur le moment, mais Dieu sait les garder en vue de ce jour de jugement. Et ce jour de jugement aura bien lieu. Ils seront jugés. Le verset 10 est plus que clair. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et qui méprisent toute autorité. Et là, Pierre commence à braquer les pleins phares sur les cœurs de ces faux enseignants. Où sont leurs cœurs? Devant l'autel de leurs désirs. Ce petit mot « désir » revient plusieurs fois dans ce livre. La semaine prochaine, on va voir au chapitre 3 que Pierre explique que ces faux enseignants vivent en suivant, non pas la parole de Dieu, mais leur propre désir, en disant « Où est la promesse de ton retour ?» C'est tout le contraire de ce qu'on a vu au chapitre 1, verset 4, il me semble, où on doit fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, par le désir. Cette corruption existe dans le monde parce qu'il y a ce désir dans nos cœurs. Et en fait, ça nous rappelle Genèse chapitre 3. Il y a cette tentation, ce désir mis en exécution. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Il était précieux, désirable pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Ils ont relu en quelque sorte. Ils ont édulcoré, modifié, modernisé, limiter la parole que Dieu leur avait donnée. Ils ont fait ça à la lumière de leur désir. C'est leur désir qui les a contrôlés, qui les a conduits à modifier, à bafouer cette parole, à la remplacer avec une autre. Et le désir de leur cœur les a conduits à la catastrophe. Et Pierre, dans la suite de notre passage, veut nous montrer la réalité destructrice de ce désir. Nous sommes là donc à notre troisième section pour ce matin, les versets 10 jusqu'à la fin. Pierre décèle d'abord leur arrogance, leur orgueil. Verset 10, présomptueux et arrogant. Ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, ou littéralement les gloires. Qui sont ces gloires? Des êtres célestes? Des leaders de l'Église? Il y a un débat, mais probablement des êtres célestes. Peut-être tout simplement des choses de Dieu. On a chanté dans ce cantique ce matin, les gloires de ta croix. En tout cas, ils sont moqueurs des choses de Dieu et des personnes qui restent fidèles au Seigneur. N'oublions pas que nous parlons ici de personnes au sein de l'Église et non pas de nos opposants non-croyants. Nous parlons de personnes qui enseignent, qui essaient de persuader d'autres à les suivre dans ces nouvelles doctrines. Et de manière pernicieuse, ils se moquent des choses de Dieu. Ils se moquent de la parole, des paroles sorties de la bouche de Dieu. Parfois, à notre époque, quelqu'un qui semble érudit, qui commence à édulcorer ce que la Bible dit, va dire quelque chose comme « Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas vraiment que toute la Bible est vraiment la parole inspirée de Dieu, sans erreur. Hein? Vous êtes des fondamentalistes, vous êtes des littéralistes. Oui, la Bible nous inspire, c'est sûr, mais il faut une certaine distance, il faut un esprit critique quand même, une certaine liberté de pensée. » Ou quelqu'un d'autre au sein de l'Église va dire « Non, la pratique de l'homosexualité n'est en rien un péché. » Vous savez, il faut savoir évoluer avec le temps. Prenez l'exemple de Barnabé, qui militait pour l'acceptation de tous. Vous savez, le plus important, c'est l'amour, la fidélité dans le couple, qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, ou d'un couple homosexuel. Ou quelqu'un d'autre va dire « Oh, Allah et notre Dieu trinitaire sont quand même le même Dieu, parce que Dieu est un. » Ne soyez pas bornés ou remplis de préjugés. Dieu aime tous ses enfants. Et tout ça a l'air savant, généreux, mais en réalité, c'est un mépris total de la parole de Dieu, et donc de Dieu lui-même. On s'érige au-dessus de Dieu pour établir notre parole à la place de la sienne. Et Pierre nous dit qu'une telle arrogance sera sévèrement jugée. On ne se moque pas de Dieu. Ensuite, Pierre expose leurs yeux ou leur cœur adultère. Pierre explique en plus de détails ce qu'il a dit au début du passage. Il expose leur motivation, la convoitise. Ils veulent posséder l'argent, le pouvoir, le sexe. Verset 19, on voit qu'ils ont des discours qui promettent la liberté. Mais eux-mêmes, ils vivent tout sauf la liberté. Ils vivent pour leurs désirs. Ils sont des esclaves de leurs désirs. Leur doctrine promet la liberté. Mais vous savez, la liberté sans l'obéissance à la parole de Dieu devient simplement la liberté de sombrer de plus en plus dans le péché. Mais cette doctrine de liberté est bien séduisante, bien tentante. Parce que lutter contre nos désirs pécheurs est chose difficile. On l'a vu, il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Il faut ajouter à notre foi la qualité morale, la connaissance, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Mais si quelqu'un commence à vous dire que non, la priorité de Dieu n'est pas tout ça, c'est plutôt de vous donner le bonheur, votre meilleure vie ici-bas, aujourd'hui, du repos, de l'argent, une belle maison, l'approbation de beaucoup de personnes au travers d'un ministère réussi, en vue, ou l'épanouissement spirituel par l'exercice de vos dons, quand même une bonne chose. Vous diriez, bah oui, ça c'est pas mal, j'aimerais bien ça, c'est ce que je veux. Ah, finalement, Dieu veut ce que je veux moi. Ou si quelqu'un devait vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce combat contre le péché, car de toute façon, il y a la grâce divine. Et si on laisse faire Dieu, bah, il fera ce qu'il veut. Nous, on est libres de vivre ici-bas à notre guise, avec nos faiblesses. Ce n'est pas très important. De toute façon, Dieu nous pardonnera, c'est son métier. Ces personnes seront dans l'Église, nous dit Pierre, pas à l'extérieur. Il s'agit de personnes qui se disent chrétiennes, qui peuvent parler de leur conversion à Christ, de leur ministère, même peut-être une relation personnelle avec Christ. Mais comme Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus parle du jugement. Ce qui dans nos cœurs, nos désirs, va tôt ou tard faire surface, n'est-ce pas? Ces faux enseignants ne pourront pas à la longue cacher ce qui est dans leur cœur, leur vraie nature. Et c'est pour ça que Pierre termine avec ce proverbe saisissant « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ». Et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Or, si Pierre parle de manière si virulente, c'est par amour fraternel. Il aime ses frères et sœurs. Il aime ces jeunes croyants qui viennent d'échapper à la souillure, à cette vie sans Christ. Et puis elle ne veut pas qu'ils soient séduits, pris par l'hameçon, exploités, malmenés, menés vers la destruction. Et tout en lui crie « Attention, attention à qui vous écoutez. » Il y aura de faux enseignants dans l'Église, avec des paroles trompeuses, animées, contrôlées par leur désir pécheur. C'est chose certaine, à chaque époque, à son époque comme à, notre, comme à la nôtre. Écoutez, c'est ce que Pierre nous dit, écoutez la parole de Dieu. Mais attention à ceux et celles qui trafiquent la parole de Dieu à leur propre fin. Ces personnes-là ne vont pas quitter l'Église. Ça serait tellement plus facile s'ils se disaient, bon, finalement, j'y crois pas trop. Donc, je vais quitter l'Église, dire ces choses dans la société qui aime tout ça. Non, ils le font. Ces personnes le font à l'intérieur de l'Église. Parce que ces personnes ont besoin de nous. Elles ont besoin de vous, de votre argent, de votre approbation, de vos clics sur Internet, même peut-être de vos corps. Si ces personnes le font à l'intérieur de l'Église, elles peuvent garder l'illusion de la bénédiction de Dieu et peut-être un sens d'auto-justification. Et donc, il nous faut beaucoup de prudence, beaucoup de discernement. Et surtout, comme on a vu à la fin du chapitre 1, il faut qu'on soit versé, enraciné dans les Écritures. Il faut qu'on connaisse les Écritures. Il faut qu'on s'accroche aux promesses de l'Évangile dans une Église locale. Qu'est-ce qui est en train de diriger les décisions du pasteur, du conseil, du responsable d'un ministère ou d'un autre? Est-ce que finalement c'est l'argent, la réputation à l'extérieur, le pouvoir? Ou est-ce qu'il y a une humble soumission à la parole? Est-ce qu'il y a un désir sincère de progresser dans la sainteté, dans une ambiance bienfaisante de grâce et de pardon? Est-ce que Christ, le Sauveur, le Seigneur qui revient pour juger les vivants et les morts, est-ce que ce Christ-là est exalté? C'est souvent les fruits personnels qui nous montrent ce qui ne va pas, avant qu'on arrive à mettre le doigt sur la doctrine qui fait défaut. Je vous invite à prier pour vos responsables. Que le Seigneur nous garde humbles devant sa parole et que l'Esprit, par la parole, nous aide à progresser semaine après semaine, année après année, dans la sainteté personnelle. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais terminer en parlant de nos enseignants dans l'Église évangélique de manière plus large. Il nous faut de tels enseignants. Ils sont un cadeau du Seigneur. Et en même temps, il nous faut du discernement. Comme ce passage nous dit, on n'est pas tous égaux devant le discernement. Il a dit, il y en a qui sont plus ou moins affermis. Il faut qu'on soit lucide, il faut que vous soyez lucide. Parce qu'en réalité, je pense qu'on est tous beaucoup plus faible qu'on ne le pense. Beaucoup plus, on peut être tous induits en erreur. À titre d'exemple, avec l'Internet, il nous faut un grand discernement. Parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Il y a de bonnes choses comme il y a de mauvaises choses. Et peut-être le problème principal avec de l'enseignement sur Internet, c'est qu'on ne connaît pas personnellement ces enseignants. On a du mal à discerner les fruits dans leur vie, parce qu'on ne les voit pas semaine après semaine. Si vous vous rendez par exemple sur le site Top Chrétien, je sais que c'est un site populaire parmi les évangéliques, je pense qu'il faut user de pas mal de discernement. Je suis allé hier soir juste pour avoir une idée. Il y a de bonnes choses là-dessus. Il y a de bonnes choses. Comme il y a de choses qui sont moins bonnes, voire vraiment pas bonnes, il faut avoir du discernement. Si vous voulez vraiment aller sur Internet, il y a de bonnes choses, même pour chaque site, il faut avoir du discernement. À titre d'exemple, pourquoi ne pas aller sur le site Évangile 21, ou pour les jeunes, le site de la Révolution. Benjamin, qui était ici pour la semaine d'évangélisation, anime ce site. Ce sont de bons sites à mes yeux, mais il faut avoir du discernement. Pierre veut nous sensibiliser. Il y a un danger clair et présent. Les désirs pécheurs de nos cœurs sont forts, mais Dieu, en Christ, par Christ, nous a donné de promesses fiables. Nous sommes à Christ, nous lui appartenons. Nous avons été libérés, rachetés, pardonnés, purifiés. On sait que Jésus revient nous chercher, mais de peur d'être de nouveau capturé, rendu captif, réduit en esclavage par ces faux enseignants. Nous devons faire attention à qui nous écoutons. Et surtout, nous devons écouter sans cesse la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait attendre un sauveur, un Seigneur qui va nous sauver et qui va juger les vivants et les morts. Et le verset 9 résume bien le message de Pierre pour cette section. Que ce verset soit notre intime conviction. Le Seigneur sait, il en est capable, sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, c'est-à-dire les hommes qui mettent la confiance en ce Seigneur qui revient. Il sait les délivrer et il sait garder les injustes pour le jour de jugement où ils seront punis. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour cet amour robuste qui nous avertit, qui n'a pas peur de nous dire qu'il y a de faux enseignants dans l'Église. Là, tu vois la tentation qui est la nôtre d'être consensuel, de ne jamais critiquer les autres. Tu vois le danger réel et présent que ça représente pour nous. Donne-nous d'être avertis, d'être lucides, d'être clairs. Donne-nous surtout d'être attachés à Jésus lui-même, à la parole, à ce Seigneur et notre Sauveur. Donne-nous de fixer nos yeux sur lui, sur ce jour quand il reviendra. Ben, tu vois tous ces enseignants, même aujourd'hui, qui focalisent sur le moment présent, sur notre meilleure vie ici-bas, sur l'épanouissement, cet évangile du bien-être. Ben, c'est sûr, on veut aller bien, on veut être guéri, on veut vivre de bonnes choses avec toi. Mais donne-nous de fixer nos yeux sur ce Seigneur qui est notre juge et notre sauveur. Donne-nous de l'attendre avec fidélité. Nous avons besoin de ton aide. Enracine-nous dans ton évangile, dans tes promesses. Je te remets les responsables aussi de l'Église, que tu nous aides à annoncer, enseigner, prêcher cette parole avec fidélité, avec soumission. Tu vois qu'on est à la fois justifié, purifié et pécheur, enclin aussi à suivre le désir pécheur. Donne-nous de les mettre à mort, ces désirs. Donne-nous par tes promesses à fuir la corruption du monde, ces désirs corrompus, où c'est finalement l'homme ou nous-mêmes qui sont au centre. Donne-nous vraiment d'avoir à cœur ta gloire. Nous avons besoin de ton aide. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.